Écoutez, bonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui se connectent en direct sur Canal U, donc sur la page Pouchet du CNRS, qui vont pouvoir suivre cette première séance de webinaire consacrée à l'épistolaire et au numérique. Donc voilà, comme vous l'avez compris, hein, pour les spectateurs, vous avez le direct et vous avez la possibilité de poser des questions dans le fil de discussion. Et ce sont ces questions que nous allons eh bien répercuter à nos intervenantes du jour, que je remercie pour leur présence.
Très bien.
Voilà, alors je passe la parole à Marie pour nous donner en fait quelques petits mots en fait d'introduction à ce webinaire. Le temps, en fait, simplement de partager notre petit diaporama qui accompagne cette introduction. Voilà, bien sûr, ça a fonctionné il y a 2 minutes.
Je peux commencer même sans diaporama.
Hein. Ouais.
Aussi, moi aussi, donc bonjour à tous, de remercier absolument les intervenants et de présenter et aussi toutes les personnes qui se connectent avec nous pour donner un peu de direct et de vie à cette formule, de présenter finalement le cadre de nos rencontres et de ce webinaire qui est en fait la transformation d'une journée d'études qui devait avoir lieu le 27 mars. Donc, je ne développe pas plus pourquoi est-ce qu'elle a été annulée. Donc, avec Jean-Sébastien, on a pensé hein, qu'il serait plus pertinent de le transformer tout de suite en webinaire pour pouvoir avancer et que ces rencontres aient lieu. Voilà, alors ce webinaire donc je ne sais pas si le PowerPoint est...
Non, toujours pas.
Ah, toujours pas. Eh bien, je continue. En tout cas, de reprendre un peu l'argumentaire de ces rencontres, donc ce webinaire est en fait une sorte de format de rencontre pour le groupe correspondance de la plateforme IMAN. Alors, plateforme qui désormais abrite une quarantaine de projets, dont 9 étaient des projets d'éditorialisation de correspondance entre du 18e au 20e siècle, voilà, avec des corpus. Donc, IMAN est donc une plateforme de traitement et de publication de corpus en environnement numérique. Et ce qui est important de souligner tout de suite, et ce qui sera un peu un fil directeur de nos échanges, c'est que cette plateforme, la vie de la plateforme, repose sur une culture technique et scientifique du partage d'un dispositif technique générique, hein, c'est-à-dire toute la structuration avec Omeka. Voilà. Donc, à partir de ce constat, c'est-à-dire un outil pour une diversité de projets et qui est au service, finalement, pour la publication de corpus de correspondance divers. On s'était dit qu'il était vraiment important pour nous tous et pour la communauté IMAN de monter un groupe de travail correspondance pour vraiment stimuler des échanges entre praticiens de l'édition de la correspondance. Donc, l'objectif est assez simple, presque banal, hein, c'est d'interroger les enjeux du numérique pour le renouvellement des études épistolaires et des méthodes éditoriales. Et vraiment dans une dimension à la fois méthodologique, hein, avec la question de la gestion de projet, et épistémologique en termes de gestion, en tout cas de démarche de recherche scientifique.
Voilà, donc effectivement que dans le cadre effectivement de ce groupe correspondance, nous avons eu effectivement des travaux en parallèle, notamment dans le cadre du consortium Cahier, hein, qui a également en fait intégré un groupe d'édition de correspondance, hein, qui a travaillé de 2015 à 2020 et qui a notamment mis en place et rédigé un guide méthodologique d'édition numérique de correspondance. Donc finalement un guide qui donne un certain nombre de recommandations à partir finalement des expériences que nous avons pu avoir les uns et les autres avec l'édition numérique de correspondance. Finalement, quelles questions se poser quand on se lance dans une telle édition numérique. Donc, ce guide est en ligne sur le site de Cahiers dont vous avez ici l'adresse à l'écran. Et vous y trouverez également des ressources qui sont vraiment intéressantes, notamment comme un descriptif matériel d'une lettre, donc des aspects codicologiques de description de la, du document de la lettre, des recommandations pour l'encodage TUI, ainsi qu'une bibliographie assez conséquente.
Voilà, alors on voulait replacer un peu ce groupe de travail correspondance dans une perspective historique. Et c'est vrai que Jean-Sébastien et moi, nous nous sommes rencontrés en 2015, dès 2015, au sein du réseau UDPN, Usage des patrimoines numérisés, et on a déjà commencé dès cette période, donc en même temps que le groupe de travail Cahiers, hein, de réfléchir à la question des usages des correspondances numérisées. Voilà. Donc, avec deux questions, de l'édition à l'éditorialisation, hein, d'interroger la question des principes communs d'éditorialisation des correspondances et de voir aussi ce passage, cette coordination, en tout cas comment on va de l'édition critique traditionnelle à l'éditorialisation de corpus, donc d'une édition critique en environnement numérique. Et puis vous avez aussi là l'adresse d'un séminaire qui avait eu lieu autour des usages pédagogiques et didactiques des archives Zola et notamment de la correspondance. Voilà. Donc, pour les objectifs du webinaire, donc c'est la volonté vraiment de présenter plusieurs corpus de correspondance et entreprises éditoriales sur la plateforme IMAN en étant finalement en voulant pointer la question des rapports entre la nature d'un corpus et ses enjeux scientifiques et méthodologiques, et bien sûr hein, de créer un espace pour échanger autour des principes d'éditorialisation et des phases successives du traitement éditorial, voilà, dans le cadre du partage d'un même dispositif technique.
Donc, voilà, effectivement, comme l'a dit Marie au départ, effectivement, ce webinaire était d'abord conçu comme une journée d'études hein, prévue au premier semestre dernier. Et donc, nous l'avons transformé dans un webinaire mensuel hein, jusque mai-juin 2021. Donc, les deux premières séances sont finalement consacrées à mettre en perspective, dans une perspective historique, ces éditions de correspondance, en partant des pratiques d'édition critique papier, entre guillemets, pour aller vers les éditions numériques. Donc, la première séance qui devait avoir lieu au mois de novembre a été reportée. Elle sera donc replacée en janvier ou février, où nous pourrons voir les correspondances de Lavoisier par Patrice Brett et les correspondances de Zola par Alain Pagès. Et nous aurons également l'équipe autobiographique correspondance de l'ITEM avec Véronique Montémon et Jean-Marc Covas. Les séances donc suivant celle-ci d'aujourd'hui seront donc consacrées d'abord aux articulations entre éditions papier et éditions numériques, avec notamment les éditions de Baudelaire et de Vernon Lee. Ensuite, nous aurons une séance 4 autour des correspondances et des œuvres d'un auteur, avec les correspondances d'Alembert et de Véronique de Chastenay. Enfin, les séances 5 et 6 vont interroger les correspondances croisées et les correspondances passives, avec notamment la correspondance de Jean-Baptiste Gaudin et Marie Marais, une correspondance croisée de Marguerite Audoux, les correspondances Guizot avec la princesse de Liéven et la correspondance de Caspar Monge, et on finira par les lettres internationales envoyées à Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus.
Voilà, et on terminera, parce qu'on avait une volonté aussi, pas seulement à la fois de réfléchir à partir des expériences éditoriales sur la plateforme IMAN, mais cette volonté aussi de s'ouvrir et d'interroger la question des innovations et des contraintes du numérique dans l'éditorialisation de correspondance, afin d'identifier finalement d'autres dispositifs techniques et de voir aussi quelles sont les pratiques éditoriales d'autres projets. Et notamment, on aura le plaisir d'avoir l'équipe Hopville avec Camille Koskas aussi qui viendra nous présenter leurs projets et leurs problématiques éditoriales.
Voilà, et enfin, pour terminer avec cette introduction, on veut souligner que voilà, ce webinaire est développé dans le cadre des enjeux qui sont au sein d'IMAN, c'est-à-dire faire apparaître de nouveaux questionnements et favoriser les échanges avec des porteurs de projets éditoriaux. Donc, ça veut dire que finalement, c'est le lieu pour accueillir de nouveaux porteurs de projets éditoriaux autour des correspondances qui pourraient venir sur IMAN. Et donc, bien Marie et moi, nous avons envie de favoriser, bien sûr, l'arrivée de ces nouveaux projets et de pouvoir les accompagner dans leur développement. Ce webinaire se fait aussi en réflexion avec deux événements qui vont se dérouler au sein d'IMAN la semaine prochaine, donc des journées internes IMAN, 8 et 9 décembre, donc qui sont réservées aux porteurs de projets IMAN, où nous allons pendant 2 jours réfléchir finalement sur les outils que nous avons développés en termes d'édition numérique. Et enfin, les journées publiques IMAN, qui là seront programmées les 28 et 29 janvier, et pour lesquelles, bien sûr, nous vous enverrons bientôt un programme complet. Nous avons également l'ambition aussi, déjà, de préparer peut-être un webinaire 2021-2022, puisque nous avons, je pense, d'autres pistes de réflexion à explorer, d'autres collègues que nous souhaiterions entendre, notamment nos collègues du Canada, dont certains sont connectés en direct aujourd'hui. Enfin, je voulais terminer finalement sur les modalités de ce séminaire en ligne. Alors, pour nous, qui est un petit peu une nouveauté par rapport au séminaire habituel en présentiel. Vraiment, notre idée, c'est que, bien sûr, donc, ce séminaire soit en direct, mais qu'on puisse ensuite le retrouver en rediffusion. Ce séminaire sera archivé sur Canal U. Donc, vous pourrez le retrouver sur cette chaîne universitaire, dans cette idée que nous avons vraiment envie de pérenniser nos travaux de recherche et de réflexion.
Cette première séance, donc sur cette perspective, donc on voulait faire un retour sur la perspective plus traditionnelle d'édition critique de correspondance. Donc ça, et en même temps, on sentait qu'il était important de voir la revue épistolaire nous semblait vraiment importante à intégrer dans notre démarche de réflexion, et notamment sur la question des usages érudits et culturels des correspondances. Et c'est vrai que l'idée d'avoir comme ça une perspective de 30 ans de recherche sur les correspondances à partir de tous les publications et le suivi des travaux d'édition de correspondance par la revue nous semblait vraiment important. Et puis Bénédicte, avec donc l'édition électronique de la correspondance, pourquoi, pour qui, et une réflexion autour de l'édition de la correspondance de Beaumarchais, va permettre justement de faire ce lien entre un peu cet état des lieux sur les études et les éditions de correspondance et d'introduire les problématiques finalement propres à l'édition en environnement numérique. Voilà.
Bien, voilà, donc cette introduction étant faite, j'ai le plaisir de présenter notre première intervenante de l'après-midi, donc, qui est Geneviève Haroche. Donc, Geneviève Haroche est professeure de littérature française à l'Université d'Orléans. Elle est directrice de la revue épistolaire éditée chez Champion, et elle est une spécialiste bien connue des littératures féminines et de l'épistolaire. Entre autres articles et publications, je signale ses nombreux travaux consacrés à Elisabeth Vigée-Lebrun, dont elle est la biographe et l'éditrice de son autobiographie, donc biographie parue chez Flammarion 2014, prix Chateaubriand, et l'autobiographie d'Elisabeth Vigée-Lebrun chez Champion 2015. Et Geneviève Haroche a publié en 2019 une biographie de Louise Villemorin chez Flammarion, qui a reçu le prix 2020 de l'Académie des littératures 1900-1950. Voilà, donc je laisse la parole à Geneviève Haroche.
Alors bonjour, est-ce que tout est bien activé? Voilà.
En principe, oui.
Voilà, très bien. Donc je vais procéder en trois temps. Donc tout d'abord un petit préambule, ensuite nous commenterons ces images qui retracent l'histoire de la revue épistolaire, et puis enfin, aussi, de manière aussi brève que possible, j'essaierai de faire le point sur les différentes polémiques qui ont animé ces 33 années de recherche sur les correspondances. Donc ici, nous nous plaçons plus résolument du côté de l'étude, hein, des correspondances, plus que du côté de la production d'édition, même si la revue épistolaire s'est beaucoup intéressée, s'est intéressée, on verra comment, à ces questions éditoriales. Donc pourquoi la date de 1987? Eh bien, cette date correspond au second colloque concernant, donc je crois qu'on peut passer à la deuxième vue, concernant les correspondances. Mes premiers colloques a témoigné d'une ambition internationale et interdisciplinaire, et il était organisé par Mireille Bossis et Chuck Porter, et la perspective en était historique, comme le titre l'indiquait, l'épistolarité à travers les siècles. Ce titre empruntait sa notion principale à l'ouvrage pionnier Epistolarity Approach to a Form, paru en 1982 et signé par la regrettée Janet Altman. Donc les premières années de la recherche épistolaire furent ainsi résolument franco-américaines et franco-canadiennes, même si on remarque la présence de chercheurs européens comme Giovanna Malcori Fondi ou Volker Kapp. Alors on a quelques vues de Cerisy pour les nostalgiques, voilà. Et les principaux acteurs en 1987, on voit que les provenances étaient très largement internationales. Donc à l'issue de ce colloque, la lettre est apparue comme une figure de compromis, donc c'est la formule que j'emprunte à Mireille Bossis, un geste de communication et un acte d'écriture. Cette formule avait l'avantage de tenir compte de la position de la lettre dans un entre-deux. Elle est une voie de circulation entre les consciences, mobile, diverse, selon la définition erasmienne qui la caractérise, restam multiplex, atque infinitum varia. Alors, le second apport de ce colloque fut d'éveiller l'intérêt pour les lettres des non-écrivains, et ça j'y reviendrai, tandis que le troisième apport était de développer et de consolider l'exercice de l'interdisciplinarité. Donc l'originalité effectivement de cette manifestation était de faire se croiser les analyses de littéraires, d'historiens, de psychanalystes, de linguistes, et c'est à la suite de cette rencontre qu'une association de chercheurs, l'AIR, association de recherche interdisciplinaire et non pas internationale, de recherche sur l'épistolaire est née, avec un bulletin qui est devenu en 1989, une revue. Donc voilà, là vous voyez que sur cette diapositive, eh bien, quelles pouvaient être les motivations de cette association qui correspondait à un vide scientifique, chaque discipline renvoyant l'étude de la lettre à une autre discipline. Donc j'ai recensé peut-être sur la diapositive précédente les études pionnières, hein, donc, dont la plus ancienne est au XXe siècle, était certainement l'étude de Lionel Duisit sur Madame du Deffand, épistolière, puis ensuite Roger Duchesne, Bernard Bray avec un numéro très précieux de la RHLF, 1978, un des numéros fondateurs de la critique épistolaire, tandis qu'ensuite on a eu une seconde génération avec Janet Altman, Vincent Kaufmann, j'en parlerai, moi-même, et Brigitte Diaz. Donc voilà, pour avoir quelques repères. Donc ensuite, eh bien voilà les éléments le premier bulletin qui était donc un bulletin de liaison pour une association récente, donc qui comprenait à peu près une quinzaine de pages. Et 16 numéros plus tard, en 1996, eh bien c'est une revue qui va véritablement naître avec 8 rubriques Et la revue, d'emblée, s'inscrit comme étant liée à l'actualité de la présence de la lettre, hein, le théâtre, le cinéma, les expositions. Et chaque numéro s'enrichit d'une nouvelle rubrique. Le numéro 17 voit l'apparition d'une chronique tenue depuis Montréal par Benoît Mélenchon, une chronique un peu spirituelle, très spirituelle même, qui donnera lieu à une publication, Écrire au Pape et au Père Noël. Ça, c'est un clin d'œil vers nos collègues canadiens. La seconde étape, eh bien, sera celle de la structuration du contenu. Donc, le bulletin devient revue avec la fabrication d'une couverture glacée et une parution toujours semestrielle. Un dos de couverture, quelques articles de critique, la naissance d'une rubrique iconographie qui met en relation l'objet-lettre et l'histoire de l'art, une rubrique lettre en chiffres qui ne sera pas vouée à continuer, qui va connaître seulement quelques parutions, et la création d'un dossier thématique dont le premier s'intitule « Lettres et formes brèves ». Ensuite, une rubrique importante, c'est celle de l'état de la question, où le dossier d'une correspondance est étudié de fond en comble, édition, état de l'édition et état de la critique. Et cette rubrique qui existe encore, bien sûr, est toujours confiée à un spécialiste du corpus en question. Donc là, j'ai fait une mise à jour en 2020, donc c'est la diapositive suivante, des états de la question qui ont été réalisés. Alors, on s'aperçoit qu'il y a un certain déséquilibre, mais qui n'est absolument pas voulu. Le XXe et le XVIIIe siècle sont les mieux représentés. Un déficit pour le XVIIe siècle, donc ce qui prouve que nous avons à travailler dans ce sens. Et également de grands épistoliers du XIXe siècle qui sont présents. Donc, mais vous voyez que donc à chaque fois, il faut quand même compter entre 14 et 18 mois pour réaliser un tel état des lieux. Et donc, effectivement, ça prend du temps. Alors, quelques exemples de couverture avec iconographie pour montrer l'évolution de l'objet, même de la revue. Et donc, cette iconographie était mise en relation avec un article. Et cette rubrique avait été inaugurée par Hélène Védrine. Donc voilà, un premier, c'est le numéro 23. Puis, vous voyez, René Desmaurice, hein, des signatures prestigieuses. Ensuite, nous avons abordé un cycle sur la lettre et l'imaginaire avec trois dossiers. Un premier dossier, Mélancolie et genre épistolaire, qui posait cette question, comment le genre le plus adressé pouvait-il accueillir en son sein la maladie qui anéantit toute forme de dialogue. Donc, c'était donc un sujet qui s'est en même temps accompagné d'une évolution des formes de publication, puisque la revue, au lieu d'être distribuée par nous-mêmes, par qui la fabriquions, eh bien, a trouvé un hébergement aux éditions Champion, où elle est encore actuellement. Second volet de ces relations entre lettres et imaginaire, les supercheries épistolaires. Contrairement à l'idée reçue, la lettre ne joue pas toujours la carte de l'authenticité. Et enfin, troisième volet, songes, rêveries, récits de rêves dans les correspondances. Le tête-à-tête avec soi-même qu'implique rêverie et songe est rompu en faveur du destinataire. Donc, comment la lettre, genre par excellence de l'ouverture à autrui, permet-elle l'expression du plus solipsiste des récits. Et dans ce numéro particulièrement, conformément au projet d'origine, l'interdisciplinarité a fonctionné, puisque ce numéro a accueilli le professeur et psychanalyste Paul-Laurent Assoun. Et dans la même optique, 7 années plus tard, le cinéaste rejoint Vermeer avec ses deux couvertures qui, comme vous le voyez, sont à placer en créer un système d'écho. Donc, à partir de des années du numéro 36, hein, le contenu est structuré en 4 parties, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Un dossier thématique, important en volume, des chroniques, des chroniques comme la chronique Curiosité, des perspectives avec des corpus inédits. Alors, nous faisons appel souvent à des chercheurs qui proposent des éclairages donc sur des lettres manuscrites, hein, Et aussi dans cette même partie, des articles critiques proposés par de jeunes chercheurs ou des chercheurs confirmés. Et nous avons le plaisir, dans la revue, de publier beaucoup d'articles de jeunes chercheurs. Et enfin, pour la recherche, une bibliographie, qui est une rubrique qui a pris de plus en plus d'ampleur, et au point que maintenant, elle est réalisée par une équipe spécialisée par siècle. Et puis, évidemment, il faut ajouter dans cette partie recherche un nombre important de comptes rendus, d'ouvrages, de recensions. Nous avons également joué le jeu de la confrontation de la lettre avec d'autres formes littéraires, ce qui a été le cas d'un numéro intitulé « Lettres et poésie », donc où les voies de communication entre lettres et poésie ont été explorées, et un autre numéro où ces voies de communication entre deux formes ont été mises en valeur, eh bien, c'est un numéro sur la frontière entre le genre épistolaire et plusieurs types de journaux personnels. Donc, voilà une page du journal de Catherine Pozzi. Donc, nous avons attendu 2007 pour aborder un sujet difficile tel que le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, celui de l'édition des correspondances. Donc, un certain nombre d'articles ont passé en revue des questions techniques, la question des index, la question de comment constituer un index, quelles sont les difficultés de cette constitution, la question de la notation, la question du support et la question du support papier, support électronique, bien sûr. Et questions littéraires et historiques ont été abordées pour ce premier colloque consacré à l'édition. Un autre volet de recherche a concerné la lettre et la création. Les relations entre... que se passe-t-il lorsque l'épistolier est un artiste? Voilà. En quoi les lettres d'artistes seraient-elles différentes des lettres d'autres créateurs? Et donc, c'est du dialogue entre les multiples formes de langage dont dispose l'artiste que surgit la lettre. Et donc, ce numéro a été le fruit d'une collaboration étroite entre historiens d'art et littéraires. Encore une voie de circulation, hein, cette fois-ci entre les correspondances d'écrivains et les archives. Hein, les correspondances d'écrivains peuvent-elles être considérées comme des archives qui ouvriraient un accès privilégié à l'histoire d'une œuvre? Et donc, nous nous sommes associés avec des chercheurs de l'IMEC et aussi des équipes de l'ITEM pour préparer ce numéro. Ensuite, c'est un ensemble de questionnements que nous avons abordé cette fois-ci d'une manière un peu moins méthodique. Par exemple, le numéro 39 a interrogé à travers ce programme « Écrire, témoigner, agir, les relations de la lettre et l'histoire ». Puis, nous avons exploré l'existence d'une forme dans la forme, c'est-à-dire la lettre d'Italie parmi les correspondances, et donc nous avons essayé cette fois-ci, de faire jouer plusieurs connexions dans ce numéro. Enfin, parmi les derniers numéros, un numéro thématique « Eros dans la lettre » et un autre numéro qui explore les voies de circulation de la lettre avec ou sans enveloppe, la lettre et le secret. Qu'est-ce que la présence ou l'absence de l'enveloppe produit sur le contenu de la lettre? Enfin, les numéros monographiques, donc j'y reviendrai. Les numéros monographiques, eh bien, nous en avons réalisé seulement trois. Un numéro consacré à la correspondance de Diderot, donc deux dossiers sur deux numéros différents. Un numéro dédié à la correspondance de Zola. Et notre tout dernier numéro qui concerne Albert Camus, épistolier. Alors, nous avons également un site, epistolaire.org, qu'on peut consulter afin de se tenir au courant de toutes les manifestations organisées par la revue. Donc, à la suite de cette présentation, eh bien, j'aimerais faire une sorte de bilan d'étape finalement sur les différentes polémiques, enfin les différentes qui ont les temps polémiques en Christ, qui ont jalonné toutes ces études épistolaires. Donc je pense, il me semble que le travail que nous avons mené, enfin qu'ont mené les chercheurs autour de la lettre durant ces 33 années, c'est réparti en trois moments. D'une part, donc, le temps des définitions et des polémiques, c'est la seule chose que je pourrais aborder aujourd'hui, certainement. Deuxièmement, le temps des explorations thématiques. Et troisièmement, le temps d'étude des grands corpus monographiques. Alors, est-ce qu'il serait téméraire de proposer des dates pour cerner ces étapes? Je vais quand même le faire. De 1987 à 1997, me semble-t-il, se présente le temps des définitions. De 1998 à 2010, l'exploration thématique prend son essor. Et à partir de 2008, vont se multiplier les études sur des grands corpus. Tout ceci, bien sûr, avec des chevauchements. Si l'on considère, d'une part, que les épistoliers dits canoniques, tels Proust, Voltaire, Madame de Sévigné, Madame du Deffand, avaient déjà fait l'objet de monographies, et que, d'autre part, les synthèses thématiques et les études sérielles vont se poursuivre après 2010. Donc, le temps des définitions et des polémiques, dont je vais essayer d'évoquer rapidement ces points en 8 points. On verra d'ailleurs que ces questions, que ces points s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. Un des débats les plus anciens, je l'intitulerai « Lettre réelle, lettre de fiction ». Eh bien, c'est celui qui oppose les correspondances authentiques et les lettres de fiction. Lorsqu'un sujet concernant tel ou tel aspect épistolaire est proposé, il n'est pas rare que des chercheurs insistent pour traiter du roman épistolaire. Et donc, à la revue, nous avons très souvent à refuser des articles de ce type, en précisant d'emblée qu'il s'agit de domaines différents et qu'on ne saurait amalgamer l'ordre de la fiction et l'ordre des correspondances réelles, bien qu'existent des passerelles et des effets d'écho entre lettres authentiques et lettres romanesques. Même si, selon la formule éclairante que j'emprunte à Alain Pagès, toute correspondance comporte une capacité narrative forte, cela n'autorise pas à des confusions. La différence la plus notable étant que la correspondance fictive propose un agencement d'informations fermé, tandis que les lettres authentiques sont ouvertes sur toutes les surprises de la réalité. Le second débat, qui est revenu très régulièrement, notamment à l'ouverture des premiers colloques, était cette question: la lettre appartient-elle ou non à la littérature ? Alors, la réponse à cette question est délicate, parce que si on sait définir ce qu'est une lettre, je rappelle les conventions constituantes minimales, un texte portant une indication de suscription et de souscription, on ne sait pas exactement décrire ce qu'est la littérature. Donc, inscrire la notion de littérature au sein d'un contexte historique de référence sera utile pour répondre à cette question, et je me référerai aux travaux d'Aaron Kibedi-Varga, pour qui le sens du concept de littérature s'est modifié et précisément, je cite, « rétréci à son acception actuelle à partir de l'époque romantique ». Jusqu'à la fin de l'âge classique, le concept de littérature se ramène à la notion de discours travaillé, alors qu'ensuite son sens se spécialise. Donc, considérer le genre à l'intérieur d'un vaste espace temporel permet d'éviter de prendre ce qui est lié ponctuellement à la culture d'une époque pour un facteur permanent. La question de la délimitation historique est essentielle et Raphaël Émaux-Rabito a insisté sur cet aspect en proposant la notion d'épistolarité restreinte. Et donc là, je renvoie à ces travaux. Ce débat a été très souvent et très longuement argumenté. Un troisième sujet de polémique a été la polémique sévignienne. Et cette querelle sur l'interprétation des lettres de Madame de Sévigné, modèle parmi les modèles, a opposé confraternellement les professeurs Roger Duchesne et Bernard Moret. Il s'agissait de trancher sur le degré de conscience épistolaire et sur l'intention d'art qui présidait à l'écriture des lettres de la marquise. Alors, la querelle pourrait sembler mineure, mais elle trace une ligne de faille entre une interprétation d'une épistolière comme précieuse et comme, si ce n'est écrivain, du moins auteur épistolaire, je rappelle que la formule est une formule de Richelet, et une vision faisant de Madame de Sévigné avant tout une mère, cherchant à conserver avec sa fille un lien fort par le truchement de lettres dont la spontanéité apparaîtrait comme la qualité majeure. Qu'en penser ? Il est certain que, comme le soulignait Roger Duchesne, Madame de Sévigné ne constitue pas de système épistolaire conscient. Elle n'en est pas moins encouragée, incitée par les louanges contenues dans les réponses, à poursuivre dans la veine d'écriture qu'elle a spontanément rencontrée. Elle est bien cette épistolière au miroir que décrivait Bernard Bray, sensible à la griserie de l'appréciation d'autrui. Ce débat, très souvent évoqué comme point de départ à des thèses, n'est pas sans fécondité. Il cristallise le malaise que ressentent les chercheurs venus des études littéraires face à un texte dont le statut frôle celui du document, tout en n'en étant pas vraiment un. La présence d'une intention d'art, voire d'une manière, manifestée quelquefois par la présence de brouillon, mais pas toujours, fait migrer ces pages familières vers le texte littéraire. La formule « document expressif » a été parfois employée, et elle me semble bien refléter le statut de ces messages, dont l'information doit toujours être mise en relation avec d'autres flux de correspondance et un contexte politique et social. Quatrième sujet d'échange et de discussion, c'est un sujet qui a été provoqué par la publication du livre de Vincent Kauffmann, dont je rappelle le titre, « L'équivoque épistolaire ». Donc la question de la distance est le livre de Vincent Kauffmann. Vincent Kauffmann travaille sur cette notion de distance et il postule, à travers des corpus bien spécifiques étudiés, pour mémoire, Flaubert, Kafka, Artaud, Baudelaire, Mallarmé, Proust, Rilke, Valéry. Donc il postule que la lettre permettrait le maintien de la distance plutôt que le désir de l'abolir dans un chapitre qu'il intitule « Destination-distance ». Je le cite, « La lettre favorise, dit-on, la communication et la proximité, mais elle peut aussi disqualifier toute forme de partage et produire une distance, un éloignement nécessaire à l'achèvement de l'œuvre. Kafka ou Flaubert mettent l'épistolaire au service d'un sacrifice constant de l'objet de leur désir. La lettre induit alors beaucoup plus qu'un non-lieu, une rupture maintenue, qu'un lieu, qu'une continuité. » Fin de citation. Alors, ces formules brillantes ont rencontré une large adhésion. Mais ce ne fut pas sans inconvénient. Nombreux ont été les jeunes chercheurs, notamment, tentés de généraliser ces commentaires, prononcés dans un contexte épistolaire bien précis, à d'autres correspondances. Or, la communication épistolaire n'aboutit pas toujours à un constat d'échec. La preuve en est visible à travers la permanence des métaphores de la vision ou de la voix, qui disent en substance, en te lisant, il me semble que je t'entends ou que je te vois. Le lien, le dialogue, s'établit de façon satisfaisante et c'est sur ce sentiment de réussite que se fonde la continuité des grands corpus, établissant un contact entre épistoliers ou du moins l'illusion de ce contact. Donc, je crois que ça doit être le cinquième point. Un cinquième débat ou un cinquième, a été abordé à la suite d'un colloque qui s'intitulait « La lettre à la croisée de l'individuel et du social ». Et ce colloque a permis finalement de mieux définir les passerelles sur lesquelles s'établissait finalement un équilibre des définitions. Alors, voilà les quatre fonctions de la lettre qui étaient proposées à l'issue de ce colloque. Un document réputé vrai, un objet de représentation, un discours tributaire des représentations collectives, un geste de communication dans une relation intersubjective. Alors, une nuance supplémentaire est apparue dans l'ordre de ces définitions. Dans l'ouvrage publié par Brigitte Diaz, L'épistolaire et la pensée nomade, Brigitte Diaz dépeint une nuance apparue selon elle plus sensiblement au XIXe siècle, et elle voit la lettre comme, je cite, le médium de prédilection de ce qu'on appellera ici une pensée nomade, pensée de soi, de la cité ou de littérature, invitation à l'écriture de soi, comme à l'essai ou au débat théorique. Donc cette étude a insisté sur la fluidité de l'échange, où la lettre est présentée comme un espace mouvant dans lequel la pensée, ne se fiche pas. Un sixième point, que j'intitulerai « La place de la lettre dans le système des genres » ou « La question de la fraîcheur de la lettre ». Donc, cette interrogation prolonge l'interrogation sur la littérarité de la lettre. Elle replace l'étude de la correspondance sous l'angle de l'histoire littéraire et a permis de revisiter l'apport de quelqu'un comme Lançon. Lançon, qui est l'auteur de deux célèbres anthologies et qui a joué un rôle de vulgarisation important, vulgarisation scolaire, mais ses introductions paraissent avoir été longtemps dédaignées, même si quelques contributions, notamment Luc Fraisse, moi-même et Pierre Dufieff, ont souligné leur rôle fondateur. En effet, dans sa présentation, Lançon dégage la notion de groupes sociaux, et on pourrait déceler dans ces regroupements pionniers l'embryon d'une théorie des réseaux. Les politiques, chefs d'armée et de parti, les religieux, la bourgeoisie, la société polie. Cependant, si Lançon considère la correspondance comme une source, il est avant tout sensible à l'implicite, à ce qui ne se dit pas. Et il attribue en outre aux lettres une supériorité sur les œuvres morales. En réalité, l'historien de la littérature propose une lecture non scientifique, une lecture d'impression, en concluant sur l'importance de la vie heureuse. Donc, quelles sont ces propositions de lecture pour un mode d'écrire qui situe du côté des pratiques et résolument en dehors de la littérature? À ses yeux, cette mise à l'écart de la littérature n'est pas à considérer comme une forme de dénigrement, mais comme un signe d'une lassitude. Un des traits de notre génération, ajoute Lançon, c'est que nous sommes excédés de littérature, et aussi l'effet d'une admiration. Lançon a vous préféré la lecture des lettres à celle des romans. Donc, en revalorisant la lettre comme un genre baigné de fraîcheur, reflétant le mouvement ondoyant de la vie, la lecture de Lançon la réintroduit cependant dans le panthéon littéraire. Un septième point sur lequel je vais passer assez rapidement parce que c'est quelque chose qui est bien connu, c'est le débat sur le rôle des secrétaires et la formation de l'épistolier. Alors, le terme bien connu de secrétaire désigne ces ouvrages à visée pratique puis récréative conçus comme des aides à la rédaction de lettres. Ils offrent des formules et c'est à Chapuis que reviendrait l'initiative d'avoir acclimaté à la langue française le titre secrétaire. Tout le monde connaît bien ces éléments. Donc, certains épistoliers et Madame de Sévigné la première ont fustigé le style à cinq sols émanant de ces ouvrages destinés à un public non lettré. Cependant, l'abondance et la permanence de ce type de publication a cité un certain nombre de chercheurs à s'y intéresser. Bon, je citerai par exemple Volker Kapp, qui dit « Je conteste le bien fondé du mépris des manuels quand il s'agit d'évaluer l'influence sur la culture littéraire et la pratique épistolière. » Aucun épistolier ne pouvait écrire une seule lettre sans avoir auparavant fait la connaissance des règles de l'art épistolaire. Ce point de vue est complété par celui de Patrick Mullat, qui était un éditeur du secrétaire de Chapuis. Quand l'écriture des missives était encore la principale, sinon la seule forme possible de communication et d'échange avec un correspondant, La lettre devait être capable de répondre par une sorte de code de bonne conduite aux diverses exigences, aussi bien de la diplomatie que des relations publiques. Elle requérait la spécialisation de l'écrivain sous la forme du secrétaire. Donc, évidemment, la connaissance des topoi est une étape indispensable à toute étude d'une correspondance, quelle qu'elle soit. Elle permet d'éviter de prendre pour invention un lieu commun. Et elle pose également une autre question complexe qui est celle des modèles, et particulièrement celle du modèle cicéronien. Alors, toutefois, si pour écrire des lettres, une formation est nécessaire, celle-ci se voit relayée dans les champs dès lors qu'il se met en place de façon continue, la lettre pouvant constituer un espace pédagogique. Donc ça, c'est aussi une des dimensions qui a été l'objet de nombreuses études, la lettre comme espace pédagogique, mais là, on n'abordera pas du tout ce sujet maintenant. Et enfin, dernière question, dernier débat, qui a agité les spécialistes de correspondance. Quelle valeur pour l'épistolarité ordinaire? Donc, cette dernière question visait à revendiquer une légitimité pour ce qu'il est convenu de nommer face aux correspondances d'écrivains la lettre ordinaire. Donc, faut-il voir ici le pendant du débat sous-jacent qui oppose les partisans de la lettre comme genre littéraire à ceux qui la présentent comme une forme textuelle non littéraire? En effet, tout un ensemble d'individus se sert de la lettre comme d'un lieu d'expression en dehors de toute finalité auctoriale. Quelles sont les motivations de ce groupe? De quelle façon s'approprie-t-il le texte? Eh bien, dans un volume étudié intitulé « Écritures ordinaires », qui a été rassemblé par Daniel Fabre en 1993, on note la volonté de s'intéresser aux écrivains selon une perspective ethnologique. Qualifié d'écriture amateur ou d'écriture du dimanche, générée par l'ordre social, cette écriture produit de l'inédit, de l'extraordinaire, dans un rapport où se conjuguent l'acte et le rite. Dans un autre travail collectif, émanant d'historiens, la correspondance et les usages de la lettre au XIXe siècle, travail procédant de l'enquête postale de 1847 initiée par l'administration des postes, se retrouve le parti pris, donc c'était un volume qui avait été dirigé par Roger Chartier, oui, c'est ça, se retrouve le parti pris qui considère la pratique épistolaire comme une écriture, je cite, parente de ces autres écritures domestiques qui produisent livres de contes et livres de raisons, cahiers et carnets, journaux intimes et récits de vie. Le tableau brossé par les auteurs de ce volume oppose ainsi les lettres de qualité aux lettres dites sans qualité. L'attention portée sur l'épistolarité sans qualité est donc un écart et un complément par rapport aux études nombreuses vouées à une histoire littéraire des correspondances littéraires. Donc la montée d'une écriture épistolaire ordinaire correspondrait au processus d'alphabétisation permettant que la compétence ne soit plus déléguée à un tiers, par exemple l'écrivain public. Et les auteurs de ce volume notent qu'un désenclavement économique et social autorise l'affirmation d'une sphère de l'individualité et du privé. Alors effectivement, donc un grand mouvement éditorial a succédé à ces volumes, mais je pense notamment à l'importante masse de publications de lettres de soldats lors de la récente commémoration de la Grande Guerre et les collectes massives qu'elle a entraîné et qui vont certainement permettre l'éclosion de nouveaux travaux. Alors, à côté de ces lettres de gens ordinaires, à côté de ces lettres de soldats, des lettres échangées en famille ont été valorisées par un groupe d'historiennes de l'HESS, Cécile Dauphin, Pierrette Pézerat, Daniel Poublan. Après avoir réalisé la transcription d'un fonds familial alsacien, elles ont présenté un bouquet de lettres intitulé « Ces bonnes lettres », précédé d'une analyse qui donne à ce type d'échange ses lettres de noblesse. Donc, quel intérêt, la question qui se posait était, quel intérêt un lecteur tiers peut-il prendre à découvrir ces épistoliers anonymes? selon les éditrices de ces lettres, s'établit un contrat de lecture qui, je cite, mêlerait l'agrément, le goût de l'énigme et les ressources entrecroisées de l'histoire et de l'anthropologie. Et effectivement, la question de la lecture se pose, que lit-on dans les lettres, dans ces lettres qui ne sauraient se lire ailleurs? Et ces questions ici posées pour le 19e siècle sont actuelles au 20e et au 21e siècle. Donc ce clivage, je terminerai par ce point, ce clivage sériel qui oppose écrivains épistoliers et épistoliers ordinaires, ne peut-il être nuancé? Un exemple serait utile ici, à l'âge classique, outre les lettrés et les gens ordinaires, on distingue une troisième catégorie d'épistoliers, nommée les dames et les cavaliers. Le terme cavalier est une traduction de l'italien cavalieri, pour désigner un homme élégant et du monde. Cette catégorie de personnes affecte de n'avoir pas besoin de règles. Les dames et les cavaliers sont des initiateurs et non des suiveurs. Ils prônent une esthétique mondaine qui navigue entre celle des docs qu'ils méprisent et celle du peuple qu'ils ignorent. Ils ont pour héritiers les gens de lettres qui ne sont pas écrivains et auxquels Diderot fait une place dans l'encyclopédie. Donc une autre limite à ce clivage épistolier ordinaire et épistolier écrivain est celle de la façon dont on se représente l'écrivain. Qu'est-ce qui distingue la lettre d'un Alain Fournier au front de celle d'un de ses camarades non écrivains dans la même situation? Même si les lettres au grand écrivain sont des séries clairement identifiables, il est difficile de distinguer un être écrivain ou un être artiste, comme nous avons essayé de le faire dans un numéro spécial. Donc il est difficile de distinguer un être écrivain ou un être artiste dans le domaine de l'épistolaire. Donc je terminerai ma présentation d'aujourd'hui par ce point-là, tout en sachant, tout en rappelant qu'il existe encore plusieurs champs d'exploration qui ne se sont pas présentés comme des débats, disons, hein, mais qui ont canalisé les recherches pendant un certain temps, notamment la question de la lettre comme espace éducatif et moral, la question aussi de la triangulation, médiation et valeur dans la lettre. Donc, c'est aussi donc plutôt que de penser la correspondance comme une activité à deux pôles, il importe de saisir le fonctionnement d'un espace intellectuel collectif, espace, structure, figure intermédiaire qui rendent possible la représentation de la société dans la lettre. Et enfin, un dernier point qui est particulièrement intéressant, qui est celui de la lettre genre mineur, genre féminin, donc, qui a donné lieu à de très nombreuses recherches et des publications. Donc voilà, pour ne pas empiéter trop, j'espère que je suis dans les temps, peut-être pas même, je terminerai sur ces perspectives et en vous remerciant.
Bien, merci beaucoup pour cette communication en deux temps, hein, donc avec un premier temps de panorama historique de la revue épistolaire, qui finalement replace nos recherches et nos réflexions d'aujourd'hui, hein, dans une perspective historique autour de la réflexion sur les corpus épistolaires, et puis ce second temps autour des polémiques critiques, comme vous les appelez, en fait, de ces débats que vous avez pu avoir au sein de votre rédaction, au sein des colloques que vous avez pu organiser, ces 8 points que vous avez finalement définis, qui est quasiment tous, hein, préside à nos propres réflexions, à nous, quand on s'attelle à une édition de correspondance, qu'elle soit papier ou qu'elle soit numérique, hein, bien évidemment, est-ce que la lettre appartient à la littérature, pourquoi on édite une correspondance d'auteur, pourquoi on édite des lettres d'anonymes, ou certains appellent aussi de non-lettrés, éventuellement. La question de la délimitation des corpus. Est-ce que la lettre ouverte, par exemple, comme Zola pouvait le faire, est-ce que ça correspond finalement à de la correspondance, à de l'épistolaire? Et puis effectivement, vous allez jusqu'à évoquer finalement le 21e siècle en définitive, bien sûr par les outils numériques, mais aussi peut-être poser la question, est-ce qu'on peut encore au 21e siècle éditer des correspondances du XXIe siècle. Voilà. Est-ce que on a finalement des corpus qui sont figés dans le XXe siècle ou est-ce qu'ils sont perdus avec l'avènement des nouveaux outils numériques? Et donc, est-ce que l'on peut encore aujourd'hui publier des correspondances d'auteurs du XXIe siècle? Voilà, je laisse bien sûr la parole à mes collègues ici présents et aux questions qui peuvent être posées sur le fil de discussion.
Là, je voudrais seulement aussi rajouter, déjà vous remercier beaucoup Geneviève pour cette introduction et c'est formidable de pouvoir commencer ce webinaire en positionnant les difficultés finalement que pose la correspondance comme objet d'étude. Et de voir aussi avec à la fois est-ce que c'est un champ ou ça n'en est pas. Et c'est vrai que souvent, et on le verra aussi dans la présentation des différents projets, où la correspondance souvent n'est pas étudiée pour elle-même, mais elle est seulement une sorte d'auxiliaire pour une étude, que ce soit biographique ou génétique ou littéraire. Donc j'ai été absolument sensible. Donc merci pour cette introduction et de montrer aussi tous les questionnements propres à l'étude des correspondances. Et bien sûr, je suis très sensible à la question de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que vraiment pour l'étude de cet objet très complexe que sont les correspondances, la nécessité finalement d'associer différents points de vue, différentes méthodes scientifiques pour pouvoir un peu pour pouvoir préciser finalement ces éléments, ces connaissances de la correspondance. Voilà, merci beaucoup. Alors, peut-être des interventions, des questions. Sophie, Céline, Camille ou des personnes sur le chat.
Alors peut-être pour amorcer les questions, finalement, moi j'en aurais peut-être une, puisqu'on est en train de réfléchir sur l'histoire des éditions de correspondance, des éditions papier, des éditions numériques. Quand justement vous avez, je pense, fait un dossier dans la revue Pistolaire en 2007, me semble-t-il, sur la question du numérique, finalement en 2007, c'est déjà assez tôt, je pense, dans l'histoire des éditions numériques. Quelles ont été vos réflexions par rapport aux éditions numériques de correspondance, quelles ont été vos approches? Est-ce que vous pensez qu'il faille favoriser le papier plutôt que le numérique? Est-ce que le papier a des avantages que n'a pas le numérique et inversement? Finalement, comment vous positionnez l'articulation entre édition papier et édition numérique de correspondance?
Alors, mon micro fonctionne, oui. Alors, pour autant que je me souvienne de ce qui avait été dit lors de ce colloque concernant les éditions numériques, il y avait eu une présentation faite par Anthony McKenna, qui, comme vous savez, travaille sur la Coupe Bell et sur les échanges savants au XVIIIe siècle. Et ce qui résultait... l'avantage qu'il résultait de cette présentation numérique était la possibilité d'un traçage beaucoup plus facile des réseaux de correspondants, et c'était quelque chose qui était assez lumineux à travers la présentation d'une carte de l'Europe, où on pouvait voir comment fonctionnaient les flux de correspondance entre épistoliers et destinataires. Donc effectivement, les corpus sont numérisés, eh bien, c'est beaucoup plus facile de travailler à travers avec des mots-clés ou des index, hein, de repérer quel épistolier communique avec un tel et un tel, comment fonctionnent les réseaux relationnels, et aussi, et non seulement les réseaux relationnels, mais lorsqu'il s'agit de savants, eh bien, la divulgation de l'information. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui paraissait évident. Alors moi-même, en tant qu'utilisatrice, par exemple, de la correspondance de Voltaire, qui, comme vous savez, est numérisée, eh bien effectivement, l'avantage c'est une façon beaucoup plus rapide d'avoir accès un sujet, bon, l'affaire Sirven, l'affaire Calas, si on veut, voilà. Donc, il y a une utilisation thématique. Donc, voilà, ça, c'est la question de l'usage qui avait été posée. Maintenant, en 2007, je pense qu'il y a, il y avait toujours des partisans d'édition papier, évidemment, parce que on sait très bien que quand on lit une correspondance, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Donc, rien ne remplace la lecture en continu d'un texte dont on tourne les pages et là, on découvre des faits microscopiques. Donc, ça, c'est... Donc je pense que l'édition de correspondance, enfin, c'est, et papier et l'édition de correspondance numérique sont complémentaires. Je pense qu'il ne faut pas que l'une remplace l'autre. Ceci dit, il est probable que l'édition numérique permettra la publication de corpus qui ne pourraient jamais accéder à l'édition papier. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce sont des banalités.
Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense que ce sont finalement trois axes de réflexion que nous avons au sein d'IMAN hein, par rapport aux éditions de correspondance. C'est comment visualiser ces réseaux de correspondants. Donc, tous les outils de cartographie, de visualisation des réseaux, c'est un chantier de réflexion que nous menons au sein d'IMAN, notamment avec Richard Walter. La question de la lecture en continu, qui est effectivement importante, hein, comment finalement, peut-être malgré tout dans nos éditions numériques, on peut essayer de restituer, de rendre cette lecture en continu qui est indispensable quand on a l'édition papier. Et puis effectivement, cette question qui me semble moins essentielle, hein, de pouvoir éditer des corpus qui ne seraient pas édités sans le numérique, hein, finalement, de pouvoir accéder à des corpus peut-être plus volumineux, inédits, peut-être aussi moins littéraires.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, des corpus, oui. Et qui ne sont pas moins intéressants que les autres.
Bien sûr. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas. Alors, je me mets sur le fil de discussion, en fait. Hein. Donc, j'ai une question de Vanessa Guignery, hein, qui nous dit « Bonjour, avez-vous inclus des analyses de correspondances d'écrivains de langue anglaise du XXe siècle dans la revue ?»
Alors, des correspondances d'écrivains de langue anglaise du XXe siècle, on n'a pas eu de proposition en ce sens. Mais nous avons eu, par exemple, des communications sur la correspondance d'Emily Dickinson, Keats, au XVIIIe siècle. Donc, on a eu effectivement des publications sur des corpus non francophones, même si ça n'est pas notre première vocation. Mais dans la mesure où il existe des interactions, bon, évidemment, on accueille très volontiers...
Alors, d'accord, merci beaucoup. Une autre question d'Alain Pagès. Est-ce que les thèses de Vincent Kaufmann sont toujours actives chez les chercheurs? Et est-ce que Vincent Kaufmann poursuit-il sa réflexion sur ce sujet?
Oui, alors je ne sais pas si Vincent Kaufmann poursuit sa réflexion sur ce sujet. Je n'ai pas l'impression d'après ses dernières publications. En revanche, j'ai quand même l'impression que c'était, enfin, l'ouvrage de Vincent Kaufmann a été un phénomène de mode. Hein. Surtout en ce qui concerne la correspondance de Kafka. Bon, alors il y avait beaucoup de jeunes thésards qui adoraient ça et qui appliquaient ça un peu, enfin, disons, de manière exagérée. J'ai l'impression quand même maintenant peut-être un petit peu moins. En tout cas, j'ai pas vu ça récemment, disons. Et il ne reste pas moins que ses propositions, sa lecture est vraie, enfin, est justifiée pour les corpus dont il parle. Mais je pense pas du tout qu'on puisse l'appliquer à tout type de corpus. Donc, je ne sais pas répondre à la
Bien, merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on peut passer à la suite de la séance.
Donc, merci encore Geneviève. Et donc, nous allons passer avec l'intervention de Bénédicte Bitt, qui est donc professeure agrégée enseignante à Le Mans Université, qui enseigne la littérature, qui est docteur en langue et littérature française. Ses travaux de recherche portent sur le genre épistolaire, sur les pratiques et l'écriture de la lettre, et sa thèse notamment porte sur la correspondance de Beaumarchais. Il y a eu une publication chez Honoré Champion d'un ouvrage, donc Beaumarchais en toutes lettres, et on a aussi, c'est aussi l'équipe de la revue épistolaire, puisque Bénédicte aussi est secrétaire de rédaction de la revue épistolaire. Elle est chercheuse associée à l'ITEM, dans l'équipe Écriture des Lumières. Et on a le grand plaisir de l'accueillir dans la communauté IMAN avec un projet sur l'homme de lettres, sur les manuscrits inédits de l'homme de lettres Robert Martin Le Suire. Voilà. Je vous laisse la parole.
Donc, tout d'abord, merci beaucoup. Je voulais remercier Marie Dupont et Jean-Sébastien Matt pour leur invitation et l'organisation de ces moments de réflexion. Donc, je vais repartir de l'intitulé de la table ronde qui nous a été proposée, Usage érudit, usage culturel, que j'envisagerai, comme vous le voyez, à partir de l'exemple de l'édition de la correspondance de Beaumarchais. Alors, pourquoi ce corpus ? En premier lieu, car nous nous trouvons aujourd'hui au seuil d'une nouvelle entreprise d'édition de cette correspondance générale. Un comité scientifique fondé en décembre 2019 à l'Université Paul-Valéry de Montpellier et dirigé par Linda Gilles réfléchit aux différentes dimensions d'un tel projet, parmi lesquelles la question du support. Et ensuite, parce que cette correspondance présente des spécificités qui interrogent la question de la destination d'une édition électronique, à la fois comme objet et dans sa relation avec le public visé. Donc, je propose de procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, de présenter la correspondance de Beaumarchais en ciblant les points saillants et les singularités. Ensuite, voir quelle réponse peut apporter à ces singularités une édition électronique par rapport à une édition papier et questionner ses réponses. Et enfin, tenter d'évaluer les conséquences du choix du support électronique en termes d'usage, en se demandant s'il faudra conserver ce terme, et de public. Voilà. Alors, la correspondance de Beaumarchais, points saillants et singularités. La première spécificité de la correspondance de Beaumarchais est d'abord précisément d'ordre éditorial. En premier lieu, rappelons que Beaumarchais a été lui-même l'un des premiers éditeurs de la correspondance générale d'un homme de lettres, Voltaire, rôle pour lequel il s'est muni de convictions fermes et claires. Ainsi pourrait-on formuler la triade fondatrice de l'édition dite de Quelle, intégralité, intégrité, intégration. Pour Beaumarchais, toutes les lettres doivent être publiées sans coupe ni retouche, au même titre et à la même hauteur que le reste de l'œuvre. C'est pourquoi, avec l'aide de ses collaborateurs, il a mis en place un vaste système de collecte des lettres, de recoupement, de relecture scrupuleuse, afin de respecter au mieux les originaux. Puis, cette correspondance a été intégrée à l'édition générale des œuvres complètes. Les prospectus publicitaires de lancement des souscriptions mettaient en avant des motivations morales, donc je cite Beaumarchais, le recueil des lettres que Voltaire a écrites dans le cours de sa longue carrière fera voir combien sa grande âme était bienfaisante. Ses principes éditoriaux, même s'ils ne reposent plus aujourd'hui sur ses intentions apologétiques mais sur des fondements scientifiques, sont toujours les nôtres. Deuxième singularité de cette correspondance sur le plan éditorial, la correspondance de Beaumarchais souffre d'une double incomplétude. Incomplétude fondamentale d'abord et inhérente au genre même, car on sait qu'une lettre peut toujours être retrouvée ou qu'une édition de correspondance générale est toujours susceptible d'être complétée en fonction des trouvailles, des ventes, des donations, etc. Et puis, il y a une incomplétude spécifique, ensuite, liée à l'histoire éditoriale de la correspondance de Beaumarchais. Ces lettres ont été publiées dans une palette large et diversifiée de lieux. Des œuvres complètes, des anthologies ou des manuels épistolaires, des revues et des articles, des biographies, des recueils centrés autour d'un destinataire, d'un thème, d'une période, d'un fond, et enfin une correspondance générale. Malheureusement, cette édition de correspondance générale, parue entre 1969 et 1978, s'est interrompue au bout du quatrième volume, suite à la cessation d'activité de l'éditeur Nizet. Et depuis, l'accès au fonds d'archives familiales est refusé, ce qui empêche toute vérification des textes déjà parus, tout enrichissement, toute description et inventaire du fonds, tout classement, toute photographie ou numérisation. Troisième particularité, une même lettre peut connaître plusieurs versions. À cela, différentes raisons. Il y a le cas du brouillon, c'est-à-dire une ou plusieurs versions antérieures à une version finale, conservée ou non. Il y a le cas de la copie, qui peut être soit une copie minute, c'est-à-dire une copie de la lettre originale pour archivage, et réalisée souvent par un secrétaire, soit une copie par précaution, dans le cas où la lettre se perdrait. Beaumarchais, qui entretenait plusieurs correspondances avec les États-Unis, envoyait jusqu'à 4 copies parfois sur différents bateaux, et il pouvait demander le renvoi de ces 4 copies pour conservation. Et puis, il y a encore le cas de la lettre d'abord privée, puis insérée dans des mémoires judiciaires, par exemple, les siens comme ceux de ses adversaires, et modifiée selon les besoins rhétoriques et stratégiques du mémorialiste. Dernier élément à noter dans cette spécificité de la pratique éditoriale de la correspondance de Beaumarchais, une pratique épistolaire assez variée. Dans les journaux, Beaumarchais publie des lettres annonces, des droits de réponse, participe à des joutes épistolaires devant les lecteurs. Dans ses mémoires judiciaires, il insère des lettres, d'abord échangées dans le cercle privé. Certaines des préfaces à ses pièces de théâtre et opéra sont des lettres. Et en dehors de la sphère publique, se côtoient des lettres d'affaires, de sociabilité, familières et intimes. Donc tout un panel de lettres dont il faut se demander si elles font partie de la correspondance générale ou non. La deuxième caractéristique importante de cette correspondance tient à la personnalité et à la vie de son auteur, profondément homme du XVIIIe siècle. Beaumarchais se décrit lui-même comme un volcan d'activité, activité qui touche à de nombreux domaines très variés. Ce qui fait que, premièrement, les lettres traitent de sujets pointus, parfois de manière très professionnelle, voire très technique, horlogerie, politique et espionnage, commerce de bois, d'armes, d'eau, de caractères d'imprimerie, de papier, droit d'auteur, bateaux, batailles, procès, littérature. Ce qui fait également qu'elle s'échange avec des destinataires aux profils, statuts et professions variés, des armateurs, des imprimeurs, des libraires, des ministres, des hommes d'affaires, des hommes de trafic, etc. Et dernière chose, elle couvre également une aire géographique très vaste, enfin assez vaste, entre le continent européen, donc la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et le continent américain. Et puis, troisième particularité de cette correspondance, c'est qu'il y a des liens entre l'écriture épistolaire de Beaumarchais et son écriture dite littéraire. Les correspondances sont des lieux propices à la création d'un univers d'écriture pour 2 raisons au moins. La première, c'est qu'elles relèvent d'une écriture du rituel, voire du ressassement, même à des fréquences variables d'écriture qui vont du pluricotidien à un espacement de plusieurs années. Ainsi, les lettres peuvent autant puiser dans la topique traditionnelle de l'épistolaire que se constituer un réservoir personnel propre à l'épistolier et à sa relation particulière avec tel ou tel destinataire. Et la deuxième raison de ces liens particuliers entre les correspondances et la littérature, c'est que les correspondances sont une écriture du long terme. Et avec Beaumarchais, nous avons la chance de disposer d'une correspondance qui s'étend sur plus de 45 années, ce qui permet d'en saisir les permanences et les évolutions. Dans la correspondance de Beaumarchais, on trouve donc des motifs et des topics personnels qui s'étendent sur la longue durée, indépendamment du destinataire, des motifs qui peuvent au contraire être spécifiques de tel échange, et des motifs qui peuvent être enfin communs avec le reste de l'œuvre et notamment avec son œuvre théâtrale. À titre d'exemple, le motif du diable parcourt l'ensemble de sa correspondance et se trouve également très bien représenté dans la trilogie. Le motif de l'épingle, qui est propre à un sous-ensemble épistolaire de Beaumarchais, qui est sa correspondance avec sa maîtresse Madame de Godeville, occupe une fonction métadiscursive et spéculaire très forte dans cet échange, comme il joue également un rôle matériel et symbolique très sensible sur la scène du château d'Aguafrescas. Et puis dans cette correspondance, on trouve aussi des sous-ensembles autour d'un lieu, donc les lettres d'Espagne par exemple, entre 1764 et 1765, autour d'un sujet, les lettres d'espionnage de 1774 à 1775, autour d'un destinataire, Madame de Godeville par exemple, et ces sous-ensembles prennent une cohérence interne sous l'effet de ces motifs spécifiques et souvent aussi sous l'effet d'un pacte singulier engageant entre les correspondants un type de discours, un ethos, une mise en scène de soi, voire un régime de fictionnalisation. C'est donc une correspondance qui est à analyser en diachronie sur le long terme, en relation d'ailleurs avec cette autre écriture du long terme qu'est le cycle de la famille Almaviva, échelonné sur 17 années, et en synchronie par sous-ensemble. On peut donc se demander dans un deuxième temps l'intérêt d'un support électronique pour l'édition de cette correspondance en s'interrogeant sur la question de la transposition. Donc je vais reprendre ces différents points et voir en termes d'édition électronique quelles questions il soulève et quelles solutions on peut proposer. Donc le premier point, c'est cette question de l'incomplétude de la correspondance de Beaumarchais, qui interroge en fait fondamentalement la pertinence d'un nouveau projet d'édition. Trop de lacunes ou d'erreurs me semblent menacer la légitimité d'une édition papier, qui est par essence figée. Or, différents travaux sur la pratique épistolaire de Beaumarchais ont permis de mieux cerner ses contours, de mieux saisir ses enjeux, c'est-à-dire autant d'avancées qu'il serait important d'intégrer dans une nouvelle édition. La souplesse de l'édition électronique constitue une solution de mise en valeur de ces avancées à l'intérieur d'une structure qui reste ouverte. Mais en contrepartie, cette perspective d'accueil et de mobilité sur le long terme implique la pérennité du système choisi, l'interopérabilité des logiciels, la continuité d'une équipe de recherche et d'ingénieurs, la constance du budget, etc., qui sont autant d'autres problèmes. Ensuite, j'ai souligné la particularité de la pratique éditoriale réflexive de Beaumarchais. Est-ce qu'elle doit apparaître sur un site électronique? Est-ce qu'il est utile ou pertinent pour le public de ce site de connaître le rôle de Beaumarchais comme éditeur de correspondance et l'histoire de l'édition de sa propre correspondance? Mais tout dépend du choix du type de site que l'on fait au départ. Dans le cas d'un site ne visant qu'à l'édition simple de la correspondance limitée à des notes historiques, ou de contextualisation, ces considérations ne trouveront pas forcément leur place. Mais on peut faire le choix inverse, envisager l'outil de manière plus large et saisir l'opportunité du cas de figure particulier que représente cette correspondance. Par exemple, le site de l'édition de la correspondance de Van Gogh prend le temps de présenter les caractéristiques générales de ce corpus épistolaire. Et de manière plus large encore, il me semble que la position particulière de Beaumarchais peut s'inscrire comme une étape dans une histoire du genre épistolaire et de sa présentation, ce qui, en ce sens, mérite au moins un onglet sur un site d'édition numérique. La conséquence, c'est que le site lui-même entrera dans une historicité et sera lui-même daté. D'ailleurs, la datation des sites n'est pas toujours apparente de manière très claire, ce qui engendre de nouvelles précautions. Un site d'édition peut être clos, mais il peut aussi rester ouvert et évolutif, avantage non négligeable dans le cas des corpus épistolaires qui sont par essence inachevés, mais il faut donc prévoir des repères chronologiques permettant de mesurer les différentes strates de sa construction et de son enrichissement. Troisième point que j'avais repéré, c'était la présence de variantes et de copies dans la correspondance de Beaumarchais. Et là encore se pose la question du choix du type de site, patrimonial ou bien génétique. Soit, en effet, on numérise les manuscrits des lettres en les présentant comme des documents que l'on souhaite conserver et mettre à disposition du public dans une logique d'archivage, soit on les édite selon une méthodologie précise à l'aide des outils élaborés par les généticiens qui permettraient le repérage et le balisage, peut-être même des propositions d'interprétation, des phénomènes de réécriture de type suppression, ajout, déplacement. Et dans les deux cas, le recours à des spécialistes de patrimoine ou de génétique est nécessaire et suppose une équipe pluridisciplinaire. Alors, ce sera le quatrième point, la pluridisciplinarité, qui se trouve effectivement au cœur de la problématique de la correspondance de Beaumarchais en raison de la diversité des domaines concernés, et ce, encore une fois, de manière souvent très, très technique. La nécessité de faire appel à des spécialistes s'est révélée évidente lors du colloque de décembre 2019 qui lançait le projet éditorial. Des spécialistes du théâtre, de la musique, des mémoires judiciaires, de l'imprimerie et du livre ont apporté des éclairages inédits sur les lettres, mais des historiens spécialistes des relations franco-britanniques, franco-espagnoles, de la guerre d'indépendance américaine, des traducteurs également pour les documents rédigés en anglais, en espagnol, en allemand, seront tout aussi nécessaires. Dans son édition des lettres et documents liés au journal Le Courrier de l'Europe, qui était un périodique franco-britannique dans lequel Beaumarchais aimait beaucoup écrire, le grand spécialiste suédois de Beaumarchais, Gunnar von Proschwitz, ouvrait le premier volume sur 29 dossiers thématiques qui replaçaient les lettres dans leur contexte historique précis. Et ces explications, presque des récits dans la plume de cet historien de la littérature éclair et enlevé, sont précieuses. Je ne crois pas qu'un site, parce que le numérique et Internet sont associés à la vitesse et à l'immédiateté, doivent se priver de ce genre de dossiers solides et denses. L'intérêt du support numérique est d'ailleurs qu'il est un espace gigogne. Il offre de la place en volume comme en réseau. On peut donc intégrer ce type de dossier, ajouter des outils d'explication et de compréhension supplémentaires. Les notes explicatives peuvent être nombreuses et longues, mais aussi facultatives pour qui ne souhaite pas couper sa lecture. Les liens hypertextes permettent de mettre en relation les lettres avec toutes sortes d'autres documents, donc des documents historiques, des mémoires, des journaux, des biographies, avec des cartes, par exemple les ports où se trouvent les bateaux de Beaumarchais, les batailles américaines, des planches d'encyclopédie pour les activités d'horloger, de harpiste, des dictionnaires contemporains, etc. Alberto Mengel voit dans le web une structure où, je cite, « tout est surface et sans volume, tout est présent et sans passé ». Le danger est en effet que ces liens hypertextuels écrasent l'épaisseur historique du texte. Mobilisés au même niveau, ils effacent toute strate historique, énonciative, scientifique. Mais ce danger n'est pas inévitable si l'on prend garde à une datation soigneuse des éléments du site, datation dont il faut imaginer les modalités. Quant à la perte de volume, on peut penser au contraire que le recours aux liens hypertextuels est à même de rendre au texte sa densité. L'inscription de la pratique épistolaire de Beaumarchais dans des réseaux géographiques, sociologiques, professionnels que je viens de mentionner vaut aussi pour son travail d'écriture qui entre également en résonance à l'intérieur de la correspondance elle-même et à l'extérieur avec ses autres œuvres. Donc ce sera le cinquième point, la question des sous-ensembles que j'ai remarqué comme élément singulier de sa correspondance. Donc ces échanges qui forment une unité narrative comme formelle. Ces échanges posent la question de l'ordre de la lecture dont nous parlions tout à l'heure. Comment, en effet, proposer simultanément, d'une part, la lecture de la correspondance en continu, dans l'ordre chronologique des lettres, telle que cette présentation fait consensus aujourd'hui, car elle permet, en effet, de donner la représentation la plus proche de la réalité de l'activité journalière d'un épistolier, et d'autre part, comment permettre la lecture par ensemble, qui permet de saisir et même de sentir la chair d'un échange particulier vécu avec un destinataire sur une période autour d'un sujet. C'est très très peu pratique avec une édition complète et chronologique en version papier et parfaitement réalisable avec une édition numérique. Les reconfigurations des correspondances sont très souvent proposées dans les éditions électroniques existantes grâce au classement possible par période ou destinataire et parfois par thème. Mais pour que le lecteur sache prélever tel ou tel sous-ensemble dans une correspondance, il faut déjà qu'il en ait une bonne connaissance et qu'il soit donc déjà un lecteur très informé. Et c'est pourquoi, si l'on veut toucher des lecteurs amateurs et susciter leur curiosité, c'est aux éditeurs à proposer ces parcours préenregistrés. Ces parcours, justement, dernier point, permettront une circulation dans l'écriture singulière de l'épistolier, extensible sur certains aspects au reste de l'œuvre. Ainsi, des motifs que j'ai repérés tout à l'heure, l'épingle, le diable, qui sont présents dans la correspondance de Beaumarchais, l'imaginaire de soi et du sujet, qui est très présent dans la correspondance, comme dans le théâtre et comme dans les mémoires, l'usage d'un vocabulaire très moderne chez Beaumarchais, contaminé par la langue de la presse anglaise notamment. Tout cela sont des spécificités de la correspondance de Beaumarchais qui doivent être mises en évidence. Alors comment ? L'édition électronique offre différents outils. Par exemple, le balisage ciblé de mots choisis grâce à des études antérieures. On peut aussi proposer les liens hypertextes avec des journaux contemporains, des dictionnaires contemporains, avec les œuvres de Beaumarchais, avec d'autres correspondances, d'autres épistoliers contemporains. On peut organiser des recueils statistiques de faits lexicaux et stylistiques. Et on pourrait proposer également la création d'une rubrique de la topique épistolaire, un peu sur le modèle du site SATOR, la Société pour l'analyse de la topique romanesque, qui, après définition et circonscription de cet objet qui est la topique épistolaire, permettrait d'en dresser une liste. Donc on aurait la topique épistolaire traditionnelle ou bien singulière à certains épistoliers, celle qui est inhérente à la matérialité de l'échange ou bien celle qui est liée au sujet traité, celle qui est issue de la rhétorique ou bien empruntée à la littérature. Ainsi, comme le suggérait Geneviève Arroche-Bouzinac dans son ouvrage « L'épistolaire », le lecteur pourra-t-il procéder à des comparaisons diachroniques et synchroniques, extérieures ou intérieures au corpus, afin de mesurer la part de créativité de l'épistolier. Donc, ce qui apparaît en somme au terme de ces différentes suggestions, ce sont les tensions entre les modèles possibles de sites. On pourrait avoir des sites d'archivage de type patrimonial qui visent à la mise à disposition ou à la diffusion plus large de manuscrits de lettres, supposant leur numérisation ou du moins leur image. On pourrait avoir des sites historiques dans lesquels les lettres sont accompagnées d'un appareil de contextualisation d'histoire littéraire, d'histoire de la langue, appliquant une transcription diplomatique ou non. On peut avoir un site génétique, avec un travail sur les variantes d'écriture, nécessitant le recours à des outils spécifiques de rendu typographique et spatial de ces variantes et d'interprétation. Et puis on pourrait proposer aussi un site littéraire qui interrogerait la lecture de la correspondance dans tous les sens. Lecture suivie, lecture par coupe, lecture plaisir, lecture savante, lecture découverte, lecture interprétation. Il n'y a donc pas d'évidence de l'outil, mais au contraire des questions et un support à interroger, pas d'évidence non plus du lecteur de correspondance et de ses usages, mais une relation à penser. Et ce sera donc ma troisième question, le support électronique, c'est une question de destinataire. Donc nous savons désormais que l'interface numérique a une incidence sur la réception du texte et du texte littéraire en particulier. Elle peut autant favoriser la créativité et la curiosité intellectuelle qu'engendrer des conditionnements de lecture et d'interprétation. La question de la destination de l'édition électronique est donc essentielle en raison des effets de lecture qu'elle induit, et d'autant plus encore qu'elle est par nature plus accessible à un public plus large et plus hétérogène qu'une édition papier traditionnelle. J'ai employé indifféremment trois termes pour désigner la destination ou le destinataire de ces éditions: usage-usager, lecture-lecteur et public. Le premier, l'usager, demande qu'on lui fournisse un service. Le deuxième, le lecteur, a besoin d'un savoir-faire ou d'un apprentissage minimal. Et le troisième, le public, attend qu'on l'accueille. Mais les trois, usagers, lecteurs, public, ont en commun l'idée du nombre, de l'hétérogénéité et de l'équipement. Ils incitent par conséquent l'éditeur et ou le concepteur du site à proposer non seulement une variété d'outils, mais aussi différentes configurations adaptées à chaque utilisateur. Donc j'envisagerais trois destinataires possibles pour l'édition numérique de correspondance, et notamment celle de Beaumarchais. Donc le premier, c'est le destinataire savant ou expert. Ce public de correspondance électronique est le plus évident d'une certaine manière, puisque les éditeurs de ces correspondances sont précisément ses lecteurs savants et experts. L'outillage qui accompagne ces éditions, recherche par mots-clés, lien hypertexte, affichage du manuscrit, transcription et annotation de type génétique, etc., est donc parfaitement adapté aux besoins d'information et de recherche de ses lecteurs et suit les avancées de la recherche épistolaire. Mais si cet outillage facilite, il ne résout pas, et il ne résout pas notamment la question du passage du quantitatif ou statistique, c'est-à-dire du descriptif, à l'interprétatif. Et cette opération est cruciale quand il s'agit de la lecture savante de textes littéraires, et le genre épistolaire propose des corpus particulièrement sensibles à cette problématique. Dès avant l'apparition des outils numériques, a émergé la nécessité d'envisager la correspondance dans son ensemble, d'abord dans des projets éditoriaux, puis dans les études. Par exemple, Madame de Sévigné épistolière, Voltaire, Diderot, Stendhal épistolier. On s'est alors avisé que le genre épistolaire est un genre de la répétition en raison de la durée à laquelle il est associé, durée qui favorise des phénomènes de continuité, de rupture, de retour, de boucle, en raison de ses rituels rhétoriques et sociaux, en raison enfin de ce qu'on a appelé l'autotexte que chaque épistolier génère au sein de sa propre correspondance. Le balayage systématique des correspondances autour d'un mot ou d'un thème s'est donc développé de façon semi-automatisée à partir de recherches par mots-clés dans des bases de données établies d'abord manuellement. Par exemple, le travail de Marie-Claire Grassi sur la montée de l'intime dans les correspondances privées entre 1700 et 1860, ou encore celui de Frédéric Giraud sur la correspondance de Zola. L'édition électronique permet désormais une récolte des données plus sûres et plus rapides, mais ces données conservent toujours le même statut, c'est-à-dire soit un statut renforcé de preuve qui viendra valider une intuition ou une hypothèse de départ, soit un statut d'étape à partir de laquelle seule la mise en relation de ces données avec d'autres éléments internes ou externes à la correspondance permettra l'interprétation. Le destinataire amateur, au contraire du lecteur chercheur, le lecteur amateur semble plus instable. En effet, soit il accède au site par hasard, au hasard de promenade recherche sur le net, et dans ce cas, comment l'y faire rester, soit on est venu le chercher, et dans ce cas, comment, par quel moyen. La question de la lecture, dite lecture plaisir sur format numérique, par le biais d'un site internet, soulève des avis contradictoires. Peut-on lire de la littérature sur internet ? Certains, comme Alberto Mengel, diront, je cite, « qu'il ne faut pas demander au médium électronique ce qu'il ne peut donner et que la littérature, par ce biais, ne peut qu'hésiter entre bavardage et bouquinage ». D'autres sont beaucoup plus optimistes, comme François Bon, qui déclare sur le web, je cite, « c'est la littérature elle-même que nous apprenons à lire ». Alors, tenons le pari et réfléchissons aux modalités de faire venir les internautes aux correspondances, de les y intéresser, de les faire lire et, rêvons un peu, de les fidéliser. Que le site ne soit plus un usage mais un désir, plus un outil technique et froid mais un espace vivant et de plaisir. Alors, une première idée pourrait être de créer un répertoire des sites consacrés aux correspondances, éditions ou études, afin de créer un point d'accueil et de référence, un peu comme on se rend dans une bibliothèque. Ensuite, il semble qu'une édition numérique de correspondance doit pouvoir proposer des modalités de lecture accessibles et confortables, adaptées aux nouvelles habitudes de lecture. Les formats compatibles avec les liseuses, les tablettes, les smartphones deviennent incontournables. Enfin, disposer d'une sorte de double interface sur le site, l'une destinée à la lecture savante et experte, l'autre destinée à la lecture plaisir, semble également nécessaire afin d'éviter une surcharge d'informations qui pourrait rebuter sur le modèle de certaines éditions de textes papier où les notes scientifiques sont reportées en fin de volume. Il reste un dernier public pour lequel l'édition électronique constitue une belle opportunité, c'est le public des scolaires, les collégiens, les lycéens. Elle est en effet peut-être un moyen de redonner une place à l'apprentissage du genre épistolaire en classe au moyen d'une didactique de l'épistolaire renouvelée, enrichi des rapports de la recherche et soutenu par l'outillage technique. Un récent ouvrage coordonné par Nathalie Denisot et Christophe Rombaud, paru en 2019, montre que l'étude de la lettre dans l'enseignement primaire et secondaire de l'espace européen entre le 19e et le tout début du 21e siècle se concentre surtout sur les dimensions biographiques et rhétoriques de la lettre. On la considère dans sa fonction documentaire ou bien on souligne les qualités d'écriture de l'épistolier. au XXIe siècle, que peut apprendre un élève du genre épistolaire et comment ? Précisément d'abord qu'il s'agit d'un genre, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la durée d'une tradition avec ses codes et les détournements de ses codes et dans la durée d'une période de vie, voire de toute une vie. Or, jusqu'à présent, l'espace papier, le seul espace possible d'étude en classe, limitait l'étude de la lettre à des extraits ou à quelques lettres issues d'anthologies ou de manuels. L'accès à la totalité d'une correspondance sur un site internet permet d'élargir nettement cette vision. De nombreuses caractéristiques du genre épistolaire, peu visibles à l'échelle d'une lettre, vont pouvoir être étudiées, des caractéristiques qui, de surcroît, peuvent faire écho à des situations tout à fait contemporaines et familières aux élèves. Ainsi, la notion de réseau, la question de la séparation ou au contraire de la porosité entre la sphère privée et la sphère publique, la notion de délai, le temps d'écriture, d'acheminement, de réponse, la découverte d'un univers d'écriture, comment un objet familier, une pratique quotidienne, peut-il être investi de temps et de soins, devenir lieu de créativité et de beauté, s'ouvrir à un imaginaire d'écrivain ? Réinterrogeons la lettre, comme aujourd'hui on interroge la twittérature, c'est-à-dire ces liens entre littérature et réseaux sociaux. Ce sont des thématiques qui peuvent vraiment intéresser les scolaires. Donc, le support électronique peut rendre visibles ces notions, proposer des outils d'apprentissage et de lecture, créer des espaces d'écriture et faire de ces sites d'édition des sites didactiques aussi. Donc, pour conclure, on voit combien la possibilité d'éditer les correspondances sur des supports numériques est fondamentalement liée au but et au public visé. On voit aussi combien elle renvoie à nos propres tensions de chercheurs entre l'exigence scientifique d'une part, qui suppose protocole technique, outillé, explicité, vocabulaire précis et informé, et une mise à disposition pour tous, d'autre part, qui nécessite explication sans simplification, accueil sans démagogie. Ainsi se multiplient les initiatives de sites collaboratifs, de crowdsourcing, dans un bel esprit des sciences citoyennes, dont tout l'enjeu est de ne pas se cantonner à la saisie, mais de faire accéder au sens, au pluriel. Que la lettre, objet éminemment mobile, qu'on écrit et qu'on lit où l'on veut, qu'on range, voire qu'on cache n'importe où, léger, petit, pliable et dépliable, passe-partout enfin, puisse se retrouver immobilisé dans un volume papier ou à la surface d'un écran, quelle mésaventure ! Le défi de l'éditeur sera de toujours chercher à lui conserver sa liberté. Je vous remercie.